Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30, Charles Matin,
Charles Magnin.
Oui, good morning, bon réveil, bonjour à tous, bienvenue sur RMC en direct dès 4h56 tous les matins pour vous informer, vous accompagner. Ça se passe en direct sur RMC, on est tous ensemble avec Géraldine Demory. Bonjour Géraldine.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Et bon courage à ceux qui sont déjà sur la route, déjà au boulot, les lève-tôt, les courageux du matin, les courageux de la nuit. Je sais aussi qu'il y en a qui ont bossé toute la nuit et qui nous retrouvent, qui nous attendent même parfois à 4h56. Eh bien, on est là, en direct, avec vous, comme chaque matin, pour vous accompagner, pour vous réveiller. Quentin vous attend aussi au standard. N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. On a plein d'infos, plein de débats à avoir avec vous ce matin. Tiens, je sais pas si tu as vu cette proposition choc, Géraldine, de Najat Vallaud-Belkacem, tu sais, l'ancienne ministre de l'Éducation, là. Oui, ça va.
Sur Internet.
Oui, on en a déjà beaucoup. En fait, on a plein d'infos, plein de débats sur lesquels j'ai hâte de vous entendre parce qu'on en a beaucoup débattu déjà cette nuit entre nous. Najat Vallaud-Belkacem qui voudrait rationner Internet, qu'on n'ait pas le droit à plus de 3 gigas de données par semaine et par personne. L'idée, c'est de dire, voilà, qu'on ait un peu moins de débit sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur nos télés, pour nous libérer des écrans et de toutes leurs conséquences néfastes. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que t'es accro aux écrans? Est-ce que tu trouves
je suis carrément accro. 3 gigas, c'est pas beaucoup, hein. Je regardais, pour se faire une petite idée, ça permet de regarder moins d'une heure de vidéo par jour. En revanche, c'est suffisant pour surfer sur Internet ou sur les réseaux sociaux.
Oui, mais ce que dit Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'on est accro aux écrans, qu'on les consomme, qu'on les gaspille n'importe comment et que donc, la seule solution, c'est de limiter pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Tiens, on va en reparler ce matin, vous aurez les infos dans nos journaux. Et puis tiens, à 6h10, on appellera Annelise Ducanda, qui est médecin et fondatrice du collectif Surexposition aux écrans, qui soutient l'idée de Najat Vallaud-Belkacem. On en reparlera tout à l'heure à 6h10. Mais ce matin, on attend surtout vos témoignages pour parler de santé au 32-16. On va parler de ce que la Fédération hospitalière de France appelle la dette de santé publique. Plus de 3 millions de séjours hospitaliers qui n'ont pas été réalisés depuis le Covid.
Ouais, il y a des conséquences, hein. C'est un embouteillage dans les services et l'activité hospitalière qui est en baisse pour les chirurgies lourdes, les actes médicaux les plus complexes. Bah, la clé, ce sont des pertes de chance pour les patients, hein. Faut le rappeler, par exemple, des cancers qui ne sont pas détectés assez tôt ou des listes d'attente pour les greffes qui s'allongent.
On va le dire tout simplement, plus de la moitié des Français ont déjà renoncé à un acte de soins ces dernières années. Ces 3 dernières années, vous faites partie de ces Français qui n'ont pas trouvé de rendez-vous en ville ou à l'hôpital chez un spécialiste, qui ont renoncé à un dépistage pourtant extrêmement important, on le sait, pour avoir des chances. Hein. Là, ce sont clairement des pertes de chances pour les patients, dit la Fédération hospitalière. C'est l'hôpital qui est aujourd'hui embouteillé. Racontez-nous ce matin au 32-16, vous êtes soignant, vous êtes patient, est-ce que ça vous est arrivé de galérer pour trouver un rendez-vous, de renoncer à des soins, faute de place mais aussi faute de moyens? Le 32-16 est ouvert, il y a aussi l'appli RMC, hein, il y a Direct Studio pour tous vos messages, vous les lève-tôt, vous n'hésitez pas évidemment à nous raconter aussi ce que vous faites réveiller ce matin parce qu'on démarre la journée tous ensemble. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC, c'est votre journal, présenté par Romain Houg. Bonjour Romain.
Bonjour Charles, bonjour à tous. 2 ministres pour une visite sur le thème de la lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont attendus à Marseille ce matin au lendemain d'une importante opération de police dans le quartier de la Castellane. Les fonctionnaires appelés à se mettre en grève et à manifester aujourd'hui, 120 rassemblements prévus dans tout le pays. À Paris, ce sera cet après-midi pour demander de meilleurs salaires. 3,5 millions de séjours hospitaliers déprogrammés, reportés, finalement jamais réalisés. C'est le constat alarmant de la Fédération hospitalière de France.
Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti attendus ce matin à Marseille.
Visite sur le thème de la lutte contre le trafic de drogue pour les ministres de l'Intérieur et de la Justice qui viennent notamment présenter le bilan de l'opération PlaceNet lancée hier dans le quartier de la Castellane à Marseille. Vous savez, ce sont ces opérations policières voulues comme des opérations coup de poing pour tenter de porter un coup d'arrêt au trafic dans les quartiers gangrénés par la drogue. Gérald Darmanin souhaite les voir se multiplier, mais les habitants concernés ne sont pas toujours convaincus. Reportage dans les quartiers nord de Marseille, justement signé Romain Poiseau pour RMC.
Des policiers, des CRS pour faire place nette dans des quartiers gangrénés par le trafic de drogue.
Ça ne change absolument rien, ça ne rassure aucun habitant.
Du déjà vu qui ne perturbe en rien le trafic de drogue, selon Kaouter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère.
Les trafics sont tout simplement déplacés, notamment dans le centre-ville de plus en plus. Arrêtons avec ces petites opérations coup de poing. Les habitants, de manière pérenne, ne voient rien évoluer et s'inscrire dans un schéma de perspective d'avenir positive pour eux et tous les habitants qui subissent.
Pour autant, même si les opérations Place Nette peuvent être perçues comme des coups de communication, elles dérangent le trafic de drogue. Et c'est essentiel pour Bruno Bartocchetti, responsable du syndicat Unité SGP Police pour le sud de la France.
Pas mal de saisies en matière de coke, en matière d'armes à feu, d'interpellations. Vous avez des endroits où on revient, mais tous les mois, toutes les semaines par endroit, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on les gêne. Hein, je parle pas de résultats sur du long terme et sur un démantèlement de stupes. Là, c'est un autre sujet qui appartient aux enquêteurs.
Et pour régler en profondeur le trafic de stupéfiants, il attend de cette visite ministérielle plus de moyens pour les enquêteurs.
À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la nuit a été bien plus calme que la précédente. Pas d'incident à signaler, contrairement à la veille où une cinquantaine de jeunes ont tiré à coups de mortier sur le commissariat de la ville. 9 personnes ont été interpellées, parmi elles 2 mineurs. 2 policiers ont été légèrement blessés. Ces violences font suite à la mort de Wanis, jeune homme de 18 ans, originaire de la Courneuve, tué la semaine dernière après un choc frontal avec une voiture de police lors d'une course-poursuite. Rapidement, le maire de la ville, Gilles Poux, a lancé un appel au calme.
J'espère que l'appel à la responsabilité collective que nous essayons de porter l'emportera. Parce que je crois que pour la famille, je crois qu'Yanis n'a pas besoin d'être entaché par, je dirais, des actes irresponsables qui pourraient nuire ou nourrir des discours nauséabonds. Je crois par ailleurs que ces débordements ne rendent justice à quiconque. Et c'est de justice dont la famille a besoin et avec elle notre pays. Et tout particulièrement nos territoires.
5,7 millions de fonctionnaires appelés à la grève aujourd'hui, de la fonction hospitalière à l'éducation nationale, où le mouvement s'annonce particulièrement suivi. 120 rassemblements sont prévus à travers le pays. À Paris, le cortège s'élancera à 14h des jardins du Luxembourg. Au cœur des revendications, la question des salaires, Sébastien Krebs.
Oui, les syndicats font bloc pour demander l'ouverture de négociations sur les salaires. Un fonctionnaire sur 10 gagne moins de 1500 euros net, fait valoir la CFDT des services publics. À l'os, dénonce la CGT, en pleine inflation, pas d'augmentation générale prévue. Et les dernières discussions ont tourné à la bataille de chiffres, le gouvernement estimant avoir déjà augmenté les fonctionnaires de 24% en 10 ans, plus que l'inflation. Les syndicats rétorquant que ce calcul est biaisé et que les salaires ont augmenté deux fois moins vite que dans le privé. La grève s'annonce notamment très suivie chez les enseignants, où s'ajoute la contestation contre les groupes de niveau. Tout cela avec en ligne de mire les JO. Les syndicats demandent des compensations supplémentaires et font toujours planer la menace de grève pendant les épreuves olympiques.
Les précisions de Sébastien Krebs du service politique d'RMC. On n'a jamais vu un tel embouteillage au bloc opératoire.
C'est le constat alarmant que tire la Fédération hospitalière de France. 3,5 millions de séjours hospitaliers n'ont pas pu être réalisés depuis l'épidémie de Covid-19. Autant d'opérations reportées, de greffes en attente, de retards de prise en charge et qui ne sont pas sans conséquences pour la santé des patients. Marion Gauthier.
La liste d'attente ne cesse de s'allonger pour les greffes notamment, 7,5% de moins que les projections d'avant Covid d'après la Fédération hospitalière. L'impression que la reprise n'est pas une priorité regrette Laurent qui espère une greffe de rein depuis plus de 5 ans.
Les greffes de rein passent quand on a le temps, quand on trouve une équipe disponible. C'est une forme d'injustice qui est ressentie.
Sans compter les rendez-vous de contrôle chaque année un peu plus difficiles à prendre.
J'espère toujours parce que ce serait vraiment l'occasion de transformer ma vie. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler alors que j'avais un job passionnant dans une grande entreprise. Mes 3 demi-journées par semaine allongées à l'hôpital, ce traitement est trop lourd, trop fatigant.
Les retards de soins, c'est une perte de chance pour les patients, s'inquiète la FHF. Sa déléguée générale, Zaina Brié, parle de bombe à retardement.
Du fait de la pandémie, il y a eu une chute de prise en charge des personnes atteintes de diabète. Ça s'est traduit 2 ans après par une augmentation des comas diabétiques.
Il faut accompagner les établissements, insiste-t-elle, pour qu'ils puissent recruter des soignants et rouvrir des lits.
Et ce matin, on vous attend au 32-16, justement, sur ce renoncement aux soins. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas trouver de rendez-vous à l'hôpital pour un dépistage, pour une opération, pour une simple consultation à l'hôpital, mais aussi en ville? Le renoncement aux soins, faute de place, mais aussi faute de moyens, c'est avec vos témoignages qu'on va mieux le comprendre ce matin. Ça se passe au 32-16 sur RMC.
Ce n'est arrivé que 3 fois en 30 ans. Fabien Ferré, un jeune chef de 35 ans, s'est vu attribuer 3 étoiles d'un coup au guide Michelin pour son restaurant La Table du Castelet. Une prouesse ce qui fait de lui le plus jeune chef à ce niveau d'excellence en France. On vous en parlait au début du mois, la jauge de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a été finalement fixée à 326 000 personnes. C'est loin, très loin des 2 millions en un temps évoqué par la maire de Paris. Parmi elles, 220 000 personnes pourront assister au spectacle gratuitement, mais sur invitation, eh bien, c'est une information RMC Sport. On en sait plus sur qui seront exactement ces invités. Le détail avec vous, Nicolas Pelletier.
Oui, d'après nos informations, Paris 2024, l'État et la ville de Paris pourront inviter 136 000 personnes pour cette cérémonie d'ouverture. Le mouvement sportif français aura, lui, 9 000 places. Enfin, les collectivités locales et territoriales vont recevoir un accès pour 77 000 personnes. Par exemple, une ville comme Aulnay-sous-Bois, qui va accueillir un dépôt de bus pour les Jeux Olympiques, sera dans la liste des bénéficiaires. Libre ensuite aux partenaires de choisir leurs propres critères pour distribuer ces invitations. Mais avec ce système, l'État vise surtout un public spécifique. 45 000 personnes impactées par les Jeux seront invitées. Riverains, commerçants et plus de 3 200 étudiants qui ont mis leur logement à la disposition de l'organisation. 3 heures de spectacle où Paris 2024 promet un rayonnement de la France sans précédent.
Et puis tiens, un mot de football. On l'a appris hier soir, Antoine Griezmann, forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, sera face à l'Allemagne et face au Chili. Le numéro 7 est atteint d'une entorse à la cheville droite. Ça faisait 84 matchs qu'il n'avait pas quitté le maillot de l'équipe de France.
Incroyable série qui s'arrête pour Antoine Griezmann avec cette entorse.
Et puis 5h08 sur RMC. Et qui en ce moment n'a pas envie d'un peu de soleil, d'un cocktail sans alcool bien sûr, mais sous les cocotiers.
Oh, même avec alcool.
En tout cas, c'est le luxe que se sont offerts deux Bretons en début du mois, nous rapporte le journal Le Télégramme. Le couple s'est payé des vacances de rêve au Sainte, en Guadeloupe. Mais voilà, arrivé sur place, bizarre, l'hôtel réservé ne ressemble pas vraiment aux photos du site internet, et pour cause, en fait, le couple avait réservé une chambre à Sainte, mais en Charente-Maritime, à 6600 km près, c'était bon. Finalement, le couple a pu trouver un autre hôtel, tant mieux, mais ça leur a coûté quand même deux fois plus cher. Et bien sûr, impossible de se faire rembourser la première
boulette en réservant en ligne. Ça s'écrit pareil, les pauvres. Faut double-checker.
Ouais, ça avait déjà arrivé, ça.
Ah bon,
il y a une année où je passais des concours un peu partout en France, c'est mon père qui avait réservé les hôtels, et le jour où je devais être à Lille, il avait réservé l'hôtel à Nantes. Et je me suis retrouvée.
J'ai de la tolérance pour ce couple qui est parti au Sainte en Guadeloupe et qui a réservé à Sainte en Charente-Maritime, parce que ça s'écrit pareil, ça peut arriver.
Alors
Lille
jour,
et Nantes. C'est une question de calendrier.
Et je me suis retrouvée à Lille sans hôtel, en pleine braderie, c'était un peu la panique. Un hôtel super sympa qui a eu pitié de moi et qui m'a trouvé un petit coin pour dormir. Et
voilà, les Lillois sont sympas. C'est ce que je retiens de cette anecdote, de cette mésaventure. C'était le journal de Romain Houk qu'on retrouve tout à l'heure en direct, évidemment. À 5h30, à 5h09, vous aussi, vous n'hésitez pas à nous raconter vos plus belles anecdotes aussi, comme Géraldine. Et puis, je vois que les leftos sont là aussi de bon matin sur Direct Studio, Géraldine.
Ah oui, tiens, il y a Audrey qui nous écoute. Elle est en plein déménagement, donc elle nous écoute encore un peu plus que d'habitude, parce
courage.
Que c'est galère là pour tout trier. Momo qui souhaite un joyeux anniversaire au meilleur papa du monde qui a 80 ans aujourd'hui, le papa de Momo.
Bon anniversaire au papa de Momo. Et son papa, bien sûr, bon anniversaire.
Non, on a Marion aussi qui est sur la route pour le boulot, comme tous les jours. Courage pour toute l'équipe et tous les leftos.
Ah, c'est sympa d'être là, évidemment, les leftos. On est tous ensemble, vous le savez, le matin sur RMC. Personne ne commence la journée tout seul. Et puis, tiens, on attend vos témoignages aussi sur la question du renoncement aux soins. Vous avez entendu ce chiffre de la Fédération hospitalière. 3,5 millions de séjours hospitaliers qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas pu être honorés depuis le Covid. Faute de place à l'hôpital. Racontez-nous ce matin si vous avez dû renoncer à des soins, faute de place, faute de moyens, à l'hôpital, en ville. Et puis, vous êtes personnel soignant aussi, cet hôpital, qui est aujourd'hui saturé en France, cette galère pour les patients, cette perte de chance pour les patients. Vous témoignez sur Direct Studio et au 32-16. Sans oublier que le matin, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Vous connaissez le principe, tous les matins, vous écoutez toutes les infos sur RMC, et on vous offre de beaux cadeaux. Pour ça, il faut répondre à une question d'actu.
Quelle star de l'équipe de France a déclaré forfait hier pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus ?
Ah, c'est RMC Sport qui vous a dévoilé l'info hier soir.
Et puis on vient d'en parler avec Romain. Là.
Oui, on vient de vous donner la réponse. Dans ce cas-là, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Vous pourrez gagner un Radio Réveil de la marque Mus si vous êtes tiré au sort.
Voilà, le cadeau RMC, il est pour vous. Le Radio Réveil dernier cri, si vous êtes tiré au sort, vous serez en direct à l'antenne avec nous à 6h20. Si vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16, bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC Police Justice.
Oui, tous les matins, une histoire repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, on est avec vous, Guillaume Biais. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Charles. Bonjour, Géraldine. Bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, Guillaume, vous nous racontez cette ambiance électrique entre policiers et gendarmes autour du bassin d'Arcachon.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un banal contrôle d'alcoolémie à la mi-janvier. À l'entrée d'Arcachon, les gendarmes font souffler les automobilistes, classique. Mais soudain, ça dégénère avec les occupants de deux voitures qui se connaissent et qui se suivent. Dans la première, la conductrice est légèrement positive, mais son passager, son compagnon, s'emporte contre les gendarmes. Et il fait valoir sa qualité. Ce n'est autre qu'un policier, commandant divisionnaire, chef du commissariat d'Arcachon. Et surtout, dans l'autre voiture, il y a son adjoint, encore plus virulent que lui, menaçant même contre les gendarmes dont la caméra piéton a tout filmé et qui ont donc fait une procédure pour outrage. Ça s'est terminé au tribunal avec une condamnation à 2 mois de prison avec sursis pour le policier chef adjoint du commissariat qui donc ce jour-là ne conduisait pas mais s'est très mal conduit. Et ce n'est pas tout puisqu'une enquête administrative a également été lancée. Le patron de la police de Gironde parle d'un comportement indigne d'un policier, inacceptable. Des sanctions devraient tomber, c'est entre les mains de la direction générale. En attendant, le commandant du commissariat d'Arcachon est en arrêt maladie, son adjoint condamné lui est suspendu. Leurs postes seront même prochainement à pourvoir, précisent nos confrères de Sud-Ouest.
Le récit de Guillaume Biais, le commandant exemplaire du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Avez-vous déjà renoncé à vous soigner? L'activité hospitalière est en baisse. Hein. On parle des chirurgies lourdes, des greffes, des actes médicaux complexes. 3,5 millions de séjours hospitaliers n'ont pas été réalisés depuis le Covid. Le retard est très difficile à rattraper. Conséquence, plus de la moitié des Français ont déjà renoncé à un acte de soins ces 3 dernières années. Est-ce que c'est votre cas? Quel délai tient près de chez vous pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, que ce soit en ville ou à l'hôpital? Vous êtes professionnel de santé, on attend aussi vos témoignages sur le terrain. Est-ce que vous constatez tout simplement ces pertes de chance pour vos patients? Vous en avez été victime, vous n'hésitez pas. Ça se passe au 3216 et sur Direct Studio. Et puis tout de suite, c'est RMC qui s'engage avec vous. Marie Notman vient en aide à Jean. Jean qui est bien embêté par une ligne de tension construite à quelques mètres de sa maison de campagne. Vous allez l'entendre.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h15. Bon réveil à tous. Vous êtes sur RMC. Vous avez fait le bon choix.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Avec Marilyn Hotman qui nous rejoint ce matin. Bonjour Marilyn.
Bonjour Charles et bonjour Géraldine.
Alors Marilyn, aujourd'hui c'est Jean qui vous a appelé à l'aide.
Oui, depuis 1985, Jean est l'heureux propriétaire d'une petite maison de campagne à Chorges, dans les Hautes-Alpes. Enfin, ça, c'était avant la construction d'une ligne aérienne très haute tension. Aujourd'hui, 225 000 volts passent quasiment juste au-dessus de son terrain et le pylône le plus proche est à 40 mètres seulement.
Nous, c'est notre lieu de vacances, on a pleine vue sur le lac de Serre-Ponçon, notre petit coin de paradis, et puis maintenant, la maison, elle n'a plus de valeur, on ne peut plus la louer, on ne peut plus la vendre, on ne sait plus quoi en faire.
Au moment de la construction, le gestionnaire du réseau électrique RTE s'était engagé à l'indemniser, car la ligne n'aurait en fait jamais dû passer si près de lui.
Ils ont reconnu qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils avaient bien vu qu'il y avait une habitation, mais que comme elle était autonome en électricité, ils ont considéré que c'était une cabane de jardin.
Et vous me voyez venir, Charles, son préjudice n'a finalement pas été reconnu, et c'est pour ça qu'il a fait appel à nous.
Mais pourtant, vous avez dit que RTE avait reconnu son erreur. Comment expliquer que Jean ne soit pas encore indemnisé là?
Parce que RTE gère le réseau et pas les procédures d'indemnisation. Pour ça, il y a une commission départementale créée sur décision de la préfecture. Elle est composée d'experts, elle évalue le préjudice visuel uniquement. Et comme la ligne passe derrière la maison de Jean et pas juste devant sa terrasse, c'est subtil, son dossier n'a pas été retenu. Au total, pour cette ligne très haute tension, 113 habitations ont été indemnisées.
Oui, mais on vous connaît, Marilyn, vous n'avez pas lâché, vous avez relancé RTE qui s'était bel et bien engagé à accompagner Jean. Et
pour l'instant, ils se retranchent derrière cette fameuse commission dont ils ne sont pas responsables. Comme c'est pratique, mais nous, on ne lâche pas Jean et on continue d'insister, d'autant que la donne a un petit peu changé récemment.
Ah.
En octobre dernier, Charles, la cour d'appel de Caen a confirmé une décision judiciaire inédite. Pour la première fois, le préjudice dû au passage d'une ligne très haute tension a été reconnu par un tribunal et RTE a été condamné à verser 460 000 euros à un agriculteur de la Manche.
Ah, bah on espère que ça fera là aussi peut-être jurisprudence. En tout cas, bougez les choses pour Jean. Vous allez suivre son dossier comme tous les autres. Marilyn, on rappelle d'ailleurs l'adresse pour vous contacter hein, avec toute l'équipe d'RMC S'engage, avec Amélie Rosic. C'est une adresse mail rmcavecvous@rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
À 5h18, on vous pose clairement la question ce matin. Est-ce que vous avez déjà dû renoncer à vous soigner? On a découvert ce chiffre choc hier. La Fédération hospitalière de France a révélé le niveau de ce qu'elle appelle la dette de santé publique. Depuis 3 ans, ce sont 3,5 millions de séjours hospitaliers qui n'ont pas pu être réalisés.
Ouais, la conséquence de ces retards de prise en charge, c'est qu'aujourd'hui, il y a des embouteillages dans les services et dans le même temps, l'activité hospitalière est en baisse pour les chirurgies lourdes, les greffes, les activités de médecine les plus complexes, avec surtout de grosses pertes de chances pour les patients. Mmh.
Plus de la moitié hein, des Français qui ont déjà renoncé à un acte de soins ces dernières années. C'est peut-être votre cas. Faute de place, faute de moyens aussi, la question de l'accès aux soins. Tiens, on va en parler tout de suite avec Eric, qui nous appelle au 32-16 depuis Saint-Leu-la-Forêt, c'est ça? Bonjour Eric.
Oui, bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Bonjour Eric.
Alors Eric, Saint-Leu-la-Forêt, si je ne dis pas de bêtises, c'est Val-d'Oise.
Val-d'Oise, tout à fait, ouais. Alors, à 25 minutes de Paris.
Et bah, je vais vous dire que je connais bien Eric, parce que c'est là que j'ai passé mon permis. Mais oui, quand on est parisien, oui, c'est un lieu d'examen, ouais, c'est là qu'on va s'entraîner et même qu'on passe le permis. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. Je l'ai eu du premier coup, Eric, donc j'adore Saint-Leu-la-Forêt. Voilà, magnifique commune.
C'est sympa.
C'est très sympa et on y roule très bien. Et là, voilà, tout le monde est courtois.
Il y a pas trop d'embouteillage, c'est cool pour passer le permis.
Exactement, c'est parfait pour s'entraîner au créneau. Ouais. Mais ce qui nous intéresse ce matin, Eric, c'est votre santé. Ce chiffre, hein, c'est 3,5 millions de séjours hospitaliers qui n'ont pas pu être réalisé. La fédération hospitalière qui dit clairement il y a un embouteillage. L'hôpital aujourd'hui en France est saturé. C'est la galère pour les patients pour trouver des rendez-vous, pour trouver de la place. Est-ce que ça vous est arrivé, Eric?
Oui, moi, le mi-février, j'avais un petit problème. Je respirais mal et tout. Donc, mon cardiologue m'a dit, écoutez, il faudrait prendre un rendez-vous assez rapidement, dans les 15 jours, pour faire un angioscanner du cœur.
Donc, un rendez-vous à l'hôpital. C'est votre cardiologue qui vous dit, allez à l'hôpital, prenez rendez-vous.
À l'hôpital ou dans un laboratoire.
Oui.
Voilà. Et donc, je vais à côté de chez moi. Donc, je téléphone à Franconville, un des laboratoires qu'il y avait à côté. Et ils me disent, non, on peut vous prendre à partir du mois de juin. Donc, moi, je flippe un peu quand votre cardiologue vous dit qu'il faut faire ça assez rapidement. Ça
et malgré la lettre du cardiologue qui dit que c'est urgent et qu'il faut faire quelque chose rapidement.
Tout à fait. La cardiologue m'avait dit, si on ne peut pas vous prendre, revenez me voir. Donc, j'ai téléphoné dans plusieurs laboratoires à Paris et j'en ai eu un, boulevard d'Hydro, j'ai eu un rendez-vous dans les 10 jours.
Ah.
Donc, j'ai pu faire mon examen assez rapidement quand même. Mais si moi, je me mets à la place de gens qui n'habitent pas à côté de Paris, c'est un peu flippant quand même, l'histoire. Et moi, je vous dis, dans le Val-d'Oise, c'était au mois de juin pour un rendez-vous.
Oui, parce que si vous vouliez le faire près de chez vous, bon là vous avez la chance, comme vous le dites Eric, d'être à une demi-heure de Paris et donc d'avoir pu, mais après moult coups de fil et tentatives, trouver un rendez-vous. Ça vous a pas coûté plus cher ce rendez-vous parisien? Il n'y a pas de dépassement, etc.
Non,
mais c'est important de le souligner.
Non, mais c'est surtout le stress qu'on subit, parce que moi je me souviens quand j'étais au laboratoire à Franconville, je suis arrivé, j'ai dit j'ai besoin de faire un angioscanner du cœur assez rapidement. Et la nana vous regarde et vous dit j'ai pas de place avant le mois de juin. Et puis voilà, partez. Puis vous dites, c'est quand même une sacrée galère quand même.
Oui, et puis c'est pas bénin comme examen. Enfin, on a envie de vite avoir la réponse. Je me permets, Eric, vous avez eu le rendez-vous la réponse depuis
D'après ce que mon cardiologue m'a dit, mon cœur va très bien. C'est un petit début d'asthme, donc il n'y a rien de méchant.
Voilà. Non, mais me voilà rassuré, parce que Eric, il y avait un petit suspense. Mais vaut mieux avoir la réponse et le soulagement maintenant qu'au mois de juin.
Tout à fait. Et donc, j'ai de la chance d'habiter à côté de Paris. Et je me mets à la place des gens qui sont dans des quartiers, dans des endroits ou un peu éloigné de tout. Ça doit pas être facile quand même.
Parce que là on parle de perte de chance, effectivement. Bon, là pour Eric ça se passe bien au final, mais si ça avait été plus grave, attendre le mois de juin, ça aurait été une perte de chance.
Bah c'est oui, perte de chance. Et puis vous stressez, moi pendant 15 jours avant de faire mon angiocardio, je flippais. Hein, je...
Ah, bien sûr.
Non, voilà. Je vois Sam sur Direct Studio qui a eu moins de chance. Il dit que lui, bah, non, il ne peut pas se soigner alors qu'il en a besoin. Voilà, lui, il est dans une maladie à risque et il pourra en mourir, mais il n'arrive pas à se soigner.
Parce que faute de rendez-vous, faute de place, des attentes, bah, j'allais dire interminables. En tout cas, on renvoie beaucoup trop loin pour des rendez-vous pourtant urgents comme vous. Eric, c'est important de le constater avec vous. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, bien fini pour vous, Eric, mais vous avez dû vous débrouiller. Fait. C'est 15 jours de stress, de galère. Il faut, c'est aux patients de se débrouiller. C'est un peu compliqué. Merci, Eric, d'être venu en témoigner parce que c'est extrêmement concret. Voilà, ce matin avec vous, on comprend mieux la situation sur le terrain. On est soulagé que votre cœur se porte à merveille, Eric. Ça va, bah, ça nous permet ce matin d'en parler tranquillement avec vous, Eric, et d'expliquer concrètement ce stress aussi, cette attente pour les patients. Merci, Eric, d'être passé par le 32-16. On vous souhaite une bonne matinée, Eric.
Bah vous aussi, bonne journée.
À très vite, Eric. N'hésitez pas à repasser quand vous voulez au 32-16. Faites comme Eric ce matin. Venez nous raconter si vous avez été confronté, voilà, typiquement à ce cas. J'ai besoin d'un rendez-vous en urgence et l'hôpital, le labo, le médecin introuvable, un créneau qu'on vous propose dans plusieurs mois. C'est du stress, de la galère pour les patients. Vous venez en témoigner comme Eric. Ça se passe au 32-16.
RMC, Charles Matin.
Il est 5h24, vous êtes bien sur RMC. Allez, dans 5 minutes maintenant, votre journal de 5h30 avec à la une cette journée de grève dans la fonction publique, notamment dans l'éducation nationale. Nous irons à Nantes. Nantes, où des écoles vont même être fermées toute la semaine. Notre reportage dans 5 minutes maintenant. Et puis à 5h40, c'est toute la bande de Charles Matin qui va nous rejoindre. On aura la story sport de Jordan Olivier qui va nous dévoiler le nouveau maillot des Bleus pour l'Euro 2024. Anthony Morel, pensez déjà demain. Anthony qui va jouer les conseillers bancaires ce matin. Tiens, soyez bien là, il a plein d'applis pour nous aider à gérer nos finances. Et puisqu'on parle finances et pouvoir d'achat, bah justement, ça tombe bien tout de suite avec toi, Géraldine. C'est la solution conso.
Je vais venir en aide aux parents épuisés qui se ruinent.
RMC, 5h-6h30.
Charles Matin. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h26 et tous les matins sur RMC, on s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
C'est Géraldine Demory qui s'en occupe particulièrement. Ce matin, Géraldine, tu fais faire des économies aux jeunes parents. Car on le sait, quand on vient d'avoir un bébé, on est souvent un jeune parent épuisé.
Mais tu t'en souviens, Charles?
Oh,
c'est vraiment merveilleux. Et le parent épuisé, c'est la cible de prédilection des industriels avec toujours cette promesse marketing. Il vous faut absolument ce produit pour être un bon parent. Bah oui, qui ne veut pas être un bon parent? Et notamment sur la question du sommeil, on voit apparaître plein de nouveaux objets dont on se passait très bien avant, mais dont on nous fait croire qu'ils sont indispensables aujourd'hui. Celui qui cartonne depuis quelques mois, c'est la peluche qui émet un bruit blanc quand le bébé se met à pleurer. On trouve généralement autour de 50 euros. Le bruit blanc, tu sais, c'est le bruit d'un battement de cœur ou même d'un aspirateur.
Ça coûte 50 euros le bruit blanc?
Ouais, en moyenne, ouais. C'est
ah
ça.
Oui.
Alors oui, ça marche sur certains enfants à certaines périodes, mais c'est loin d'être le produit miracle. D'ailleurs, il n'y a aucune étude scientifique qui vient prouver son efficacité. Et puis on ne compte plus les boîtes à histoires que l'enfant peut écouter dans son lit avec même des exercices de sophrologie dès le plus jeune âge. Là, c'est entre 50 et 80 euros en moyenne. Alors perso, moi j'adore les boîtes à histoires pour les temps calmes par exemple, mais c'est pas du tout la solution pour endormir son enfant.
Oui, et puis pas trop tôt surtout quoi. On attend qu'il ait 3-4 ans. Bon, il y a des gadgets un peu inutiles mais pas bien méchants, mais il y a aussi des choses qui pourraient être carrément dangereuses. Hein.
Ouais, la couverture lestée par exemple qui est censée faire une pression sur l'enfant, ce qui doit l'aider à dormir, ou encore le biberon attaché à l'oreiller, ça j'ai découvert. Idéal en cas de petit creux. Sauf qu'on le rappelle, il ne faut jamais mettre ni d'oreiller, ni de couverture dans le lit de bébé, ni quoi que ce soit d'ailleurs qui risquerait de l'étouffer. Et on voit aussi plein de nouveaux métiers se créer autour de ce business du sommeil, des nounous de nuit qui vont prévenir le moindre réveil de bébé pendant que vous allez dormir tranquille. Ou encore des coachs en sommeil qui vont vous dire comment endormir votre enfant. Tout ça évidemment contre rémunération. Plusieurs centaines d'euros dilapidés par des parents désespérés. Tout ça pour recevoir des conseils souvent simplement de bon sens. Je précise qu'il n'y a aucune formation reconnue pour ces nouveaux coachs.
Et alors justement, quels sont les conseils de bon sens là pour les jeunes parents qui hésitent, qui sont perdus dans tout ce marketing? Est-ce qu'il y a des choses toutes simples et qui ne coûtent pas trop cher?
En tout cas, pour les pédiatres, la recette d'un bon sommeil chez l'enfant, elle est assez simple. C'est un coucher à une heure fixe, un rituel de 15-20 minutes, pas plus. L'adulte lit une histoire, un câlin, une phrase rassurante et s'en va. Tout ce qu'on va rajouter, ça rassure le parent, mais ça risque plus de perturber le sommeil que de le favoriser, sans parler du trou dans le portefeuille. Et puis pour déculpabiliser tout le monde, il faut quand même dire que les chercheurs sont tous d'accord sur un point. Les cycles du sommeil se stabilisent autour des 6 ans de l'enfant.
Ah.
Donc si à 3 ans, votre enfant se réveille la nuit, c'est pénible, mais c'est normal.
Et il n'y a pas de solution miracle.
Non.
Ça n'a rien de se ruiner en accessoires. Même
chacun
si vous
son
êtes
rythme.
Ciblé par le marketing.
Ça va venir à un moment, il va dormir. C'est
exactement.
Promis.
Il va dormir. Il faut le câliner, le bercer, le rassurer. rassurer. C'est voilà des solutions.
Il a besoin de vous plus que d'une boîte à histoire.
Exactement, ça prend un peu de temps, mais au moins c'est gratuit. C'était la solution conso de Géraldine pour les jeunes parents pour ne pas se faire avoir. Il est 6h29.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et on se fait tout de suite plaisir avec le meilleur d'Arnaud Demanche. Arnaud qui est allé faire un tour dans un congrès à Limoges ce week-end où l'on préparait l'arrivée des extraterrestres.
Alors, prix de l'entrée entre 150 et 190 euros quand même. Je ne sais pas si les amis célestes sont bienveillants, mais en tout cas, ils aiment bien le pognon.
Ils aiment l'argent.
Et on proposait aux visiteurs notamment un service d'assistance pour aider à gérer les traumas liés avec des rencontres avec des extraterrestres. C'est vrai qu'on n'est jamais préparé à ça. Moi, je suis allé ce week-end visiter une expo et j'ai rencontré un ami céleste bienveillant qui m'a dit « Bonsoir, jeune homme, et bienvenue à l'Institut du Monde Arabe. Je m'appelle Jack Lang, je serai heureux de vous montrer mon univers. »
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct, évidemment, dans Apolline Matin.
RMC, Charles Matin.
Bon réveil à tous, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot ou encore peut-être tranquille à la maison. On est tous ensemble le matin sur RMC pour vous informer. Votre journal en direct avec Romain Houg. Bonjour Romain.
Bonjour Charles, bonjour à tous. 5,7 millions de fonctionnaires appelés à la grève aujourd'hui. Manifestation dans toute la France pour réclamer de meilleurs salaires. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti attendus à Marseille. Et ce matin, les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent présenter le bilan de l'opération anti-drogue lancée hier dans le quartier de la Castellane. Et une équipe de France sans Antoine Griezmann. Voilà 84 matchs de suite que ce n'était pas arrivé. Mais voilà, blessé à la cheville, Grisou est forfait pour les deux prochaines rencontres des Bleus.
Les fonctionnaires se mobilisent aujourd'hui. 120 rassemblements prévus dans toute la France.
Oui, à l'appel des syndicats de la fonction publique réunis en intersyndicale. À Paris, le cortège s'élancera à 14h des Jardins du Luxembourg. Le mot d'ordre, c'est de meilleurs salaires, des manifestations et un appel à la grève qui promet d'être particulièrement suivi dans l'éducation nationale, dans plusieurs départements. Le ras-le-bol est tel que le mouvement va durer plusieurs jours, comme à Nantes, où certaines écoles resteront porte-close jusqu'à la fin de la semaine. Reportage de Martin Cadoret.
Et ce sera le cas à l'école Ange-Guépin. Tous les enseignants sont en grève, dont Renaud Gingortoli, syndiqué au SNUIPP, un mouvement inédit selon lui.
Ce qui fait déborder le vase, c'est une pénurie de remplaçants sur l'école. Et ce qui a été ahurissant, c'est qu'en janvier, on a parfois été 2 enseignants sur 5 non remplacés dans l'école. On a compté depuis le début de l'année, c'est à peu près 30% du temps qui se fait de façon dégradée.
Des enseignants soutenus par les parents d'élèves qui signent banderoles et tribunes. L'un d'entre eux, Sylvain.
On voit pour les enseignants, c'est impossible d'exercer son activité professionnelle de manière normale. On se dit que le seul moyen de faire entendre ces exigences, c'est que nous-mêmes, les parents d'élèves, nous nous associons à ces mouvements.
Le ras-le-bol est général. Collèges, lycées généraux et professionnels sont également appelés à se mobiliser, aussi pour des questions de rémunération. Manu Fono, militant Sud-Éducation 44.
Emmanuel Macron avait promis 10% de revalorisation pour tous les enseignants et enseignantes. Aujourd'hui, on a fait le calcul. Pour plus de 70% des personnels, les augmentations qu'on a eues ne couvrent même pas l'augmentation de l'inflation.
Lui espère que leur grève de 4 jours fera tache d'huile et inspirera les autres départements.
Reportage signé Martin Cadoret pour RMC. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont attendus à Marseille ce matin. Ils viennent présenter le bilan de l'opération PlaceNet, lancée hier à la Castellane. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se rendront à 11h au commissariat de la division Nord de la ville. Au lendemain donc d'une vaste opération anti-drogue menée dans ce quartier miné par le trafic. Amine Kessassi, ancien habitant des quartiers nord, à la tête de l'association Conscience. Pour lui, il s'agit là plutôt d'une opération de communication.
Non mais ça y est, enfin, on arrête de jouer quoi. Moi c'est ça que j'en pense. J'en pense qu'à un moment on ne peut pas juste faire de la communication sur la gestion de la drogue. Les gens ont ras-le-bol de ces opérations de police, ras-le-bol de voir la police une fois de temps en temps. Et donc la police, elle doit être là en permanence. Nous on est pour un retour de la police de proximité. Ça fait 25 ans qu'on essaie de lutter contre cette guerre de la drogue et 25 ans qu'on échoue constamment. On sait où sont les narcobandits, on sait où ils sont cachés, on sait dans quel pays ils sont et on ne fait rien pour aller les chercher. Donc à un moment stop quoi, on arrête de mentir aux gens et un peu de sérieux sur cette question parce que il en découle des vies humaines.
C'est l'un des plus grands complexes hospitaliers de la bande de Gaza. L'armée israélienne a lancé une opération tôt hier matin contre l'hôpital Al-Shifa, la deuxième opération du genre après un premier assaut lancé en novembre dernier qui avait permis, selon l'armée israélienne, de retrouver notamment des armes attribuées aux combattants du Hamas. Hier, Tzal dit avoir neutralisé plusieurs hauts gradés. Mao Baker-Granier.
Une vingtaine de terroristes tués et 200 arrêtés et depuis interrogés. C'est le bilan dont se targue l'armée israélienne. Plus de 45 chars et véhicules blindés sont entrés dans le quartier où se situe l'hôpital. L'armée décrit aussi avoir découvert dans certains bâtiments dédiés aux soins des liasses de billets, des grenades et des armes en tout genre. Des opérations qui pourront de nouveau avoir lieu, explique Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne.
Le Hamas continue d'opérer systématiquement à partir des hôpitaux. Ils maltraitent les civils, les patients et s'en servent comme abri pour terroristes en fuite. Nous ne permettrons pas cela et continuerons d'attaquer les endroits où le Hamas tente de rétablir son emprise.
L'armée israélienne dit aussi avoir tué l'un des responsables du Hamas, Faik Al-Mabou. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de dizaines de morts et de blessés, pour la plupart des civils, et accuse Israël d'avoir ciblé les bâtiments du quartier sans aucune distinction.
4h35 sur RMC. Et cette question, faut-il rationner Internet pour nous libérer des écrans?
Une proposition choc de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, dans une tribune parue hier dans le journal Le Figaro. Harcèlement, discrimination, fake news. Selon elle, les écrans sont la source de bien des problèmes. Alors, sa proposition est simple. Limiter l'accès quotidien à Internet à 3 gigas de données par semaine. Ça va vite. Après quoi, le téléphone ne servira qu'à téléphoner. Ce qui est sûr, c'est que la proposition ne manque pas de faire réagir à Najat Vallaud-Belkacem.
Internet fait partie du quotidien de Leslie.
Tous les matins dans le métro, tous les soirs quand je rentre, le midi, on peut se balader, rester une heure dessus et perdre beaucoup de temps.
Et justement, son temps, la trentenaire, aimerait bien l'utiliser autrement. Alors pour elle, rationner Internet.
Si ça peut nous aider à nous réguler, pourquoi pas. Ça sera pour le strict nécessaire, pour trouver un resto, une adresse ou ce genre de choses.
Mais la proposition est loin de faire l'unanimité parce que 3 gigas par semaine, eh bien ça passe vite.
Je l'utilise à mon avis en moins d'une journée.
3 heures de jeu sur la console et c'est fini. Hein.
C'est rien et ça enlève tout le côté pratique d'avoir un ordinateur ou d'avoir de la technologie qui est faite pour rendre la vie plus facile.
Et puis pour Françoise, une telle mesure ne changerait rien aux dérives sur la toile.
Vaut beaucoup mieux éduquer que d'être dans cette répression. Le problème n'est pas l'outil en soi. Le problème est la mentalité, la souffrance qu'il y a derrière, la perversion qu'il y a derrière qui vient de la souffrance.
Les spécialistes de la prévention sur le numérique saluent une proposition qui permet d'ouvrir le débat, mais insiste sur l'importance de l'éducation à l'utilisation d'Internet.
Et ça vous fait sûrement réagir ce matin à ce que, comme le propose Najat Vallaud-Belkacem, vous estimez qu'il faudrait rationner Internet pour qu'on soit un peu moins accro à nos écrans. N'hésitez pas, hein, ça vous fait réagir. Et tiens, on va en parler à 6h10. On va appeler Anne-Lise Ducanda. Elle est médecin et elle est fondatrice du collectif Surexposition Écran. Elle est plutôt favorable à cette idée de Najat Vallaud-Belkacem. Rationner Internet, libérer Internet, limiter la consommation d'Internet sur nos téléphones pour qu'on s'en libère un peu. Ça vous fait réagir, vous connaissez le chemin, c'est le 32-16.
Et puis on avait presque oublié que c'était possible. Une équipe de France sans Antoine Griezmann, le joueur détient de loin le record de longévité en bleu avec 84 matchs d'affilée. Mais voilà, la série va s'arrêter là pour le numéro 7, victime d'une entorse à la cheville. Il est forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France face à l'Allemagne samedi, puis au Chili mardi prochain. Il faut remonter loin, Fabrice Hawkins, pour retrouver un match des Bleus sans Griezou.
13 juin 2017, c'est la dernière fois que l'équipe de France a démarré un match sans Antoine Griezmann. C'était contre l'Angleterre qui faisait encore partie de l'Union Européenne. Depuis, Griezy a débuté toutes les rencontres et a enchaîné 84 titularisations en 7 ans. C'est du jamais vu. Le joueur de l'Atlético de Madrid a battu le record de Patrick Vieira qui avait enchaîné 44 matchs. Chouchou de Didier Deschamps de son propre aveu, Griezmann a commencé en attaque avant d'être replacé au milieu depuis la Coupe du Monde au Qatar. Désormais vice-capitaine, le meilleur passeur de l'histoire des Bleus voit sa série arrêté avec cette blessure à la cheville. Il va quitter l'équipe de France cet après-midi après avoir participé dans la matinée aux activités marketing avec les partenaires de la Fédération Française de Football. C'est Matteo Guendouzi, le milieu de terrain de la Lazio, qui va le remplacer.
Enfin, est-ce que vous vous souvenez de la sortie du tout premier iPhone?
Ça nous rajeunit pas.
Oui, non, c'était en 2007. On était alors loin d'imaginer à quel point ce petit appareil serait partout aujourd'hui. Eh bien, sachez qu'il est possible de vous le procurer. Par contre, ça va coûter cher, très cher. Un exemplaire est mis en vente aux enchères. Il reste 5 jours pour faire monter la mise qui, pour l'instant, est à 12 240 euros. Et sachez que si ça restait à ce prix-là, ce serait une affaire en or. Parce que dites-vous que la dernière fois que ce modèle a été vendu, là encore aux enchères, il avait fallu débourser 174 000 euros pour rafler la mise. À vous de voir, mais sachez qu'à l'époque, sur cet appareil, il fallait se contenter seulement d'une petite quinzaine d'applications, pas d'App Store, pas de capture d'écran et même pas de possibilité de copier du texte.
Ouais, ça ne...
Je suis même pas sûr qu'il marche encore d'ailleurs.
Et pas d'internet, enfin il y avait pas de 3G, il y avait de la 2G à l'époque.
Ah oui, Anthony Morel vient d'entrer dans ce studio, notre geek expert, oui, qui connaît pas. Oui, mais alors, on était peut-être un peu moins accro, du coup, pour en revenir à notre débat, s'il y avait un peu moins d'applications, un peu moins de débit, peut-être qu'on passait un peu moins de temps les yeux rivés dessus. Donc, c'est aussi tout le débat. Ce tout premier iPhone, ça vaut le coup de regarder dans les tiroirs à la maison, s'il nous en reste un.
Faut préciser que c'est des iPhones qui sont vraiment en condition parfaite, en boîte scellée. Tu vois, c'est pas un truc. Si t'as un vieil iPhone qui traîne dans le placard, malheureusement.
Il vaut pas 12 000 euros.
Ou faut pas l'avoir ouvert, quoi.
Malheureusement. Bon, pour gagner des gros sous, faut peut-être plutôt miser sur les courses. Parce que Romain, vous avez les pronos pour le quintet aujourd'hui, ce sera à Compiègne à 13h55.
Eh oui, c'est à suivre en direct sur RMC Découverte. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori le 13, Morsan, son outsider le 9, African Grey.
C'est bien noté, c'était le journal de Romain Hogue à 5h39 sur RMC. On va aller faire un tour sur l'appli RMC. On va regarder Direct Studio où vous nous envoyez tous vos messages en direct.
Mais il y a beaucoup de réactions à ces problèmes dans les hôpitaux. J'ai par exemple qui nous dit que ces problèmes, c'est une honte pour notre devise, et notamment pour l'égalité entre les Français. Stéphane, les problèmes de santé, oui, c'est compliqué de prendre rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des urgences qui sont débordées. Encore un Gabriel qui nous dit que pour se soigner, il a dû faire 300 km et accessoirement perdre une journée de salaire. Donc beaucoup de galères effectivement pour se faire soigner et certains qui renoncent tout simplement.
Et vous continuez à témoigner sur cette question du renoncement aux soins aujourd'hui en France, ça se passe aussi au 32-16 et puis le matin, vous savez que sur RMC on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh oui, vous vous levez tôt, vous écoutez toute l'info sur RMC. Eh bien, ça tombe bien, on va vous gâter. Mais pour ça, il faut répondre à une question d'actu.
Quelle star de l'équipe de France a déclaré forfait hier pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus ?
Ah, ça fait 84 matchs, je crois, qu'il n'avait pas raté avec l'équipe de France. C'est donc un petit événement. Si vous avez la bonne réponse, tiens, Romain Hook vient de la donner dans le journal. Donc, si vous avez été attentif, vous savez quelle est la bonne réponse. Quel est ce joueur, cette star de l'équipe de France ? Vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un radio réveil de la marque Muse.
Voilà, le gagnant ou la gagnante en direct avec nous à 6h20. Vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu tous les matins, c'est sur RMC et ça se passe avec vous, Jérémy Trottin. Bonjour.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Jérémy, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, réunit aujourd'hui à l'Assemblée les députés de la majorité. Au cœur des discussions, le projet de loi sur la fin de vie et l'aide à mourir. Vous nous révélez, Jérémy, qu'il y a pas mal d'inquiétudes parmi les macronistes.
Oui. Car dans les faits, les députés du parti présidentiel ne voteront pas d'une seule et même voix le projet de loi présenté par Emmanuel Macron. Beaucoup sont même dans l'attente. Cela fait partie des lois que je vais bien lire avant de me prononcer. Explique avec prudence un député qui s'attend déjà à des pressions sur le terrain. Des pressions religieuses, plus ou moins fortes en fonction de sa terre d'élection, comme le confie ce parlementaire de région parisienne, qui compte dans sa circonscription un important centre de soins palliatifs fondé par une congrégation catholique. Si aucun décompte officiel n'a encore été réalisé, un pilier du Parlement estime que seulement 50 à 60% des députés macronistes devraient voter pour le texte, quand une quinzaine pourrait s'y opposer. Des clivages qui traversent jusqu'au gouvernement. Si des ministres issus de la droite comme Bruno Le Maire ou Catherine Vautrin, qui portera le texte, assurent avoir évolué sur le sujet, d'autres comme Aurore Berger sont plus réticents. Cette loi ne doit surtout pas être présentée comme un nouveau droit ou comme une super avancée sociale, prévient cet autre ministre.
Indiscret signé Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Il est 5h42 et comme chaque matin sur RMC, vous avez rendez-vous avec toute la bande. Mais oui, réunis autour de la table, notre ami Jordan Olivier est là pour la Story Sport.
Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler du nouveau maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Ça fait débat, vous allez voir.
Anthony Morel, c'est déjà demain.
Vous êtes plutôt cigale ou plutôt fourmi autour de la table, les amis?
Plutôt fourmi.
Plutôt fourmi. C'est bien fourmi, c'était
ouais, ouais, c'est bien, mais c'est pas sympa, les gens sont pas contents.
Ah, c'est un peu radin. Bon, je vais vous présenter des applications justement pour gérer son budget et pour éviter d'être trop cigale justement.
Ça va me plaire et puis il y aura ton bonus Géraldine.
La star du Alipa qui débarque en France.
Et puis je vois Robert qui veut témoigner au 32-16 sur la question de l'accès aux soins, il a vécu une grosse galère, il nous raconte tout dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC, Charles Matin,
Charles Magnin.
Il est 6h moins le quart et vous êtes bien sur RMC avec la meilleure équipe pour vous réveiller. Jordan Olivier va nous présenter le nouveau maillot des Bleus dans un instant. Anthony Morel va vous aider grâce à la tech à faire des économies. Géraldine Demory va nous faire danser avec Dua Lipa dans son bonus. Mais tout de suite, c'est Robert qui s'installe avec nous autour de la table. Salut Robert.
Bonjour Charles.
Ah Robert, la pêche de bon matin. Là. Robert, vous êtes en Savoie, c'est ça?
Absolument, dans une station de ski à Arèche-Beaufort.
Ah, et vous y travaillez?
Oui, absolument.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Robert?
J'ai une agence de voyage.
Ok.
Spécialisée dans le voyage d'aventure. J'ai aussi des hébergements atypiques, des igloos, durant tout l'hiver.
Trop bien, génial. Robert, loueur d'igloos.
Absolument.
Ah bah, incroyable le boulot. Alors, bah, je sais pas si vous avez des questions sur les igloos, je vois tous les yeux briller.
On va se faire un petit week-end igloo, là.
Ouais, quand vous voulez, mais attention, hein, on ferme le 1er avril, hein.
Ah, faut se dépêcher. Oui, c'est la fin de saison pour les igloos.
Les igloos en juillet, forcément, c'est moins bien, quoi.
Bon, mais ah bah, tiens, Robert, est-ce que la saison a été bonne cette année pour vous?
Oui, elle a été bonne. Bon, je confirme.
On l'entend à votre pêche. Il y a eu de la neige. Les igloos étaient remplis. J'ai bien. J'aurais jamais cru prononcer cette phrase, mais je vous remercie, Robert, de me donner l'occasion de le dire. Les igloos étaient remplis cet hiver.
Ah oui.
Bon, mais Robert, on va venir à un sujet moins réjouissant. La galère de l'accès aux soins. On a eu ces chiffres de la Fédération hospitalière de France hier qui dit qu'il y a 3,5 millions de séjours hospitaliers qui n'ont pas pu être réalisés ces dernières années. Faute de place, faute de moyens à l'hôpital. Il y a aussi la galère de l'accès à un spécialiste en ville. Ça vous est arrivé, Robert?
Oui, absolument. En début de saison, j'ai eu une douleur assez intense au genou. Donc, vu ma profession, c'est quand même un petit peu embêtant, hein, parce que je dois monter tous les jours en altitude et donc skier, hein, pour rejoindre mes igloos, justement. Mmh. Il faut savoir que nous, le premier hôpital est à 25 km. Hein. Il s'agit de l'hôpital d'Albertville. Mmh. Donc, je suis allé voir mon médecin traitant, qui m'a dit d'aller voir un spécialiste. J'ai tenté vainement d'obtenir un rendez-vous à Albertville. Impossible d'obtenir un rendez-vous avant 2 mois ou 3 mois. Donc, qu'ai-je fait? J'ai ouvert l'application Doctolib et j'ai trouvé un spécialiste à Lyon, dans une clinique privée. Hein, alors, Lyon, c'est quand même 177 kilomètres.
Ouais, c'est une petite trotte, là, quand même. Hein.
Voilà, c'est quand même une petite trotte. Hein, donc, j'ai rencontré le spécialiste qui m'a demandé de faire un IRM. J'ai de nouveau tenté d'avoir un rendez-vous pour un IRM à Albertville. Impossible. Donc, je suis retourné à Lyon faire l'IRM dans une clinique privée. Et c'est vrai qu'avec l'application Doctolib, j'ai pu trouver en quelques jours un labo qui m'a fait l'IRM.
Oui, mais vous avez trouvé, mais à 200 bornes de chez vous, il faut le souligner.
Absolument, aller-retour, ça fait 400, Charles.
Oui, et c'est une journée de boulot perdue pour un rendez-vous, pour une consultation, pour un IRM. C'est une vraie galère, ça, pour vous.
Ah bah, c'est une vraie galère. Et en fait, j'y suis allé 4 fois. Hein. Premier rendez-vous, une radio, ensuite un IRM et dernier rendez-vous, bah vous voyez, c'était hier soir à 18h30 et là j'ai passé la nuit à Lyon et je rentre chez moi ce matin.
Ah oui, il a fallu passer la nuit. Bah comment va le genou, Robert?
Eh bien, ce matin, il va bien.
Ah, hein,
bon, j'ai eu une infiltration hier soir, donc il va bien.
Bon, c'est déjà ça, mais ça montre bien la galère de l'accès aux soins parce que Robert, c'est tout bête, hein, mais vous avez eu tout ça. Enfin, déjà. Les moyens de trouver. C'est très bête, mais ça coûte cher, hein, ces allers-retours à Lyon. C'est du temps, de l'argent, il faut avoir les moyens. Ça pose aussi la question de l'égalité. Je crois que c'est Sam qui nous le disait dans un message sur Direct Studio, la question de l'égalité aux soins, face aux soins. Parce que vous, Robert, vous avez eu les moyens de prendre le temps, de prendre le rendez-vous, etc., de perdre des journées de boulot. Tout le monde n'y a pas accès. Bon, Robert, pour vous, aujourd'hui, ça se finit bien, j'ai envie de dire. Le genou va mieux ce matin, mais en France, c'est devenu de plus en plus compliqué de se soigner. Tout
et à Lyon, on est étonné de vous voir arriver d'aussi loin ou ils trouvent ça normal?
Même pas.
Non,
même pas.
Il y en a beaucoup.
Non, absolument pas. Hein, le médecin m'a dit hier que qu'il avait beaucoup de gens qui arrivaient de Savoie, d'autant plus qu'en Savoie, nous, c'est la période dans les hôpitaux où c'est de la médecine d'urgence, donc c'est complet, les jambes cassées, les bras cassés, etc.
Non, c'est saturé et vous en avez été la victime collatérale. Robert, bon, tout se termine bien pour vous, mais ça montre encore
bien
une fois.
Bien sûr. Et en plus, j'ai une bonne mutuelle, heureusement.
Oui. Alors, j'ai envie de vous dire combien ça vous a coûté au final? Quel est le reste à charge pour vous là dans tout ça, Robert?
Alors, avec ma mutuelle, à part évidemment les allers-retours, j'ai une voiture électrique, donc l'électricité, l'autoroute, à chaque consultation dans une clinique privée, c'est entre 70 et 100 euros.
Ouais, non mais bon,
Et il faut avancer l'argent, hein, bien évidemment. Et
évidemment.
La mutuelle me rembourse après.
Non mais encore une fois, une question de moyens, il faut trouver le rendez-vous et ensuite avoir les moyens de s'y rendre tout simplement. Robert, merci beaucoup. Vous avez le temps de rester 5 minutes avec nous, Robert, même si je sais que la saison bat son plein dans vos igloos. Vous avez 5 minutes pour partager quelques infos avec nous parce que tiens, on va vous présenter, alors bah, le genou de Robert va mieux. En revanche, c'est la cheville d'Antoine Griezmann qui va pas bien ce matin.
Entorse à la cheville.
Entorse à la cheville pour Griezmann qui sera pas des deux prochains matchs des Bleus. Mais dans la Story Sport ce matin, on va parler de l'équipe de France et de son nouveau maillot. Le maillot que porteront les Bleus lors de l'Euro au mois de juin a été dévoilé hier par Nike, Jordan.
Oui, alors, je préfère vous le dire tout de suite. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de vous le décrire. C'est pas évident, mais les bandes sont tricolores sur le col. Bleu, blanc, rouge, évidemment. Couleur bleu électrique et un coq doré, assez imposant quand même, mais sur le côté du cœur avec les deux étoiles de champion du monde, évidemment. Cette nouvelle tunique rappelle un peu celle de l'Euro 84 remportée par la génération Platini.
Il est vintage, ouais.
Il est vintage et ce côté rétro, c'est ce qui semble plaire au sélectionneur Didier Deschamps. Des maillots, lui, il en a vu défiler.
J'en ai vu pas mal depuis 12 ans d'ailleurs. Voilà, après, là c'est un peu vintage pour rappeler nos illustres vainqueur du championnat d'Europe. Ça va plaire à certains. En général, on n'entend pas trop ceux à qui ça plaît.
Eh ben, moi, je vais le dire. Ça me plaît. J'ose le dire, Dédé, je fais passer le message.
Ouais, il est pas mal. Franchement, je suis en train de le regarder.
J'ai vu Wembanyama, la star de NBA, le porter. Alors lui, bon, il fait 3m50, donc forcément, le coq paraît pas si grand sur lui. Mais sur quelqu'un de taille normale, oui, le coq est imposant. Et moi, je trouve très bien ce côté vintage du maillot des Bleus. Mais sur les réseaux, Jordan, il faut le dire, les avis sont très partagés.
Hein. Oui, c'est justement ce gros coq qui cristallise toutes les critiques. Alors certains twittos s'en amusent d'ailleurs, comme cette supportrice des Bleus. Le coq sur le maillot de l'équipe de France est nourri même aux mêmes hormones que les dindes à Noël aux USA.
Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'il est boosté, le coq. Il a bonne mine.
C'est une belle bête.
Référence à Nike, évidemment, équipementier américain. Ou encore ce tweet, le coq balèze qui sort du maillot pour prouver à Deschamps qu'il mérite sa place dans la liste des 23.
Alors, oui, c'est vrai. Mais c'est une fierté, le coq.
Oui, il faut le mettre en avant.
Il faut qu'il soit imposant.
Bon, pour trancher, j'ai quand même demandé à un spécialiste, Jeannot Rességuier. Alors, pas spécialiste de mode, a priori, plutôt spécialiste du football. Voix de du foot, évidemment, sur RMC. Il suit les Bleus depuis 1999. Voici son avis.
8 sur 10 pour la note, parce que je trouve que déjà on est revenu à quelque chose de plus classique, plus maillot que polo. Ça avait été un petit peu le cas par le passé. Mais bon, de toute façon, satisfaire tout le monde avec un maillot de football, ça reste très compliqué.
Ah, il a raison. Là où tout le monde sera sûrement d'accord, c'est le prix exorbitant, comme d'habitude, de 80 euros le maillot réplica ado à 150 euros pour la version authentique adulte.
Wow.
Ce n'est malheureusement pas à portée de toutes les bourses.
Oui, très bien. Ceux qui critiquent ne paieront
pas. Ne l'achèteront pas.
Voilà. Ça enlève déjà quelques clients. Je ne sais pas si Robert, vous l'avez vu passer ce nouveau maillot des Bleus ou pas?
Oui, absolument. Je l'ai vu. Moi, je crains pas.
Ouais.
Ça me rappelle mes jeunes années.
Exactement. C'est un maillot Platini. On va le dire
Absolument.
En hommage à la génération. Moi, je le trouve très sympa aussi. Donc voilà, il y a pas que des critiques. Faut pas lire tout ce qui se dit sur les réseaux. Il y a aussi des supporters qui aiment ce nouveau maillot. Même Anthony Morel et Cédric.
Ah ouais, moi je le trouve très chouette. Ouais.
Alors qu'il n'y connaît rien au foot.
Ah oui, dire. C'est un avis esthétique.
Mais en fashion, il est là.
Ouais.
Anthony, évidemment.
Niveau t-shirt, je suis présent quand même.
Et alors justement, Jordan nous disait que ça allait coûter très cher, 150 euros la version adulte de ce maillot. Va falloir faire quelques économies. Ça tombe bien. Anthony, ce matin, tu nous présentes ta petite sélection d'applications pour mieux gérer son budget et ses finances et faire potentiellement de belles économies.
Ouais, sachant que près de la moitié des Français est à découvert au moins une fois par an, un Français sur cinq une fois par mois. Alors évidemment, le simple fait d'utiliser une application pour mieux gérer son budget, ça va pas faire des miracles et résoudre tous les problèmes financiers. Mais dans pas mal de cas, ça peut aider à limiter certaines dépenses inutiles, à anticiper les problèmes et à faire des économies. Ces applications de coaching budgétaire, elles sont nombreuses. On peut citer Bankin, Linxo, Wallet ou encore Budgia. La plupart, elles vont en fait se connecter à votre compte en banque et elles vont catégoriser les dépenses. Le loyer, les transports, les courses, les abonnements, la santé, les impôts. Vous montrez ce qui pèse beaucoup, votre reste à vivre, donc une fois que tout le nécessaire est payé, et surtout le poids du superflu. Là où potentiellement vous pourriez faire des économies. Alors je parle pas forcément de ceux qui sont à 1 euro près chaque mois, parce qu'évidemment ils sont déjà à essayer de faire des miracles. Mais dans beaucoup de cas, il y a parfois des petits 5 euros, des 10 euros qu'on dépense par-ci par-là et à la fin du mois, ça fait une somme. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'abonnement Netflix, plus l'abonnement Disney, plus l'abonnement Amazon, on s'en rend pas forcément compte. Là, avec ces applications, on va voir ce que ça pèse sur notre budget total. Le petit café qu'on prend chez Starbucks avant d'aller au boulot, 5-6 euros à chaque fois, quand tu multiplies ça par le nombre de journées de travail, là aussi, ça fait une somme. L'abonnement à la salle de sport que tu utilises au mois de janvier, puis après que t'as complètement oublié, 40 euros par mois, ça pèse aussi.
Mais parfois, t'es engagé pour l'année.
Exactement. On va faire un footing, ça coûte moins cher, t'es dehors, et voilà.
Tout ça, c'est pour gérer son budget au quotidien, mais il y a aussi des applis pour gérer ses finances, son épargne, son patrimoine.
Ouais, pendant longtemps c'était facile, on avait tout à la banque, mais maintenant, notamment les jeunes, on sort de plus en plus des banques traditionnelles. On peut avoir son livret à la banque, de l'assurance vie chez un assureur en ligne, un PEA sur une application de trading, ouais, genre Revolut, Trade Republic, etc. Et donc là, il y a une appli hyper pratique que je vous conseille, application française qui s'appelle Finari, F-I-N-A-R-Y, qui permet en fait d'agréger tout ce que vous avez sur les différents sites et de voir à la fois ce que vous avez au total et les frais cachés. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez une assurance vie dans votre banque traditionnelle, vous allez voir à quel point il se goinfre en réalité et quelles options en ligne pourraient potentiellement vous coûter moins cher. Finari, F-I-N-A-R-Y.
Les bons conseils, les bonnes applis d'Anthony, c'est à retrouver quand vous voulez, aussi en podcast. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous réécoutez le podcast de C'est Déjà Demain sur l'appli RMC. Et puis il y en a une pour qui on ne se fait pas trop de soucis côté épargne et finance. C'est la chanteuse Dua Lipa, la britannique, qui annonce deux concerts en France, Géraldine.
Elle a annoncé hier sur Instagram une petite tournée européenne. Deux dates en France, aux Arènes de Nîmes, les 12 et 13 juin prochains. Les places mises en vente à partir de ce jeudi vont s'arracher très très vite. Il va falloir être au taquet. Son nouvel album est annoncé pour le 3 mai prochain et on connaît déjà le single Houdini.
La superstar Dua Lipa, ouais, qui passera donc en France, mais pas à Paris. Voilà, deux dates aux Arènes de Nîmes. C'est un gros coup pour le festival. Et donc, les places mises en vente dans deux jours maintenant pour des spectacles au mois de juin prochain. Qu'est-ce que c'est bon, ça cartonne, hein, Dua Lipa. Évidemment, on va remercier Robert d'être passé par le 32-16 ce matin. Robert, on est soulagé pour votre genou. Et on va vous souhaiter un bon retour à la montagne, c'est ça, Robert?
Eh bien, écoutez, Charles, je vous remercie. Et ce que je vous propose, je vais vous envoyer un petit bon d'échange. Et pour la saison prochaine, je vous invite à venir passer une nuit dans mes igloos.
Allez, prochain rendez-vous avec Captain Igloo la saison prochaine avec Robert. Merci beaucoup d'être passé par le 32-16. Robert, embrassez toute la Savoie de notre part. Et évidemment, ça continue sur RMC dans un instant. C'est le journal de 6h. Ça se passe en direct sur RMC à la radio et sur RMC Story à la télé. Tiens, on va tout vous dire dans un instant sur le système d'attribution des places pour la cérémonie d'ouverture des JO. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, 5h-6h30,
Charles Matin.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct le matin, c'est donc sur RMC et RMC Story avec Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. On vous dit tout ce matin sur la cérémonie d'ouverture des JO. On vous dévoile sur RMC le système d'attribution des places, 222 000 places qui seront gratuites. Opération Place Nette à Marseille, grande opération contre les dealers, cité de la Castellane. Hier, les ministres Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti seront sur place ce matin. Et la bombe à retardement à l'hôpital, 3,5 millions de séjours repoussés ou carrément annulés depuis le Covid selon la fédération hospitalière.
On vous dévoile ce matin les détails de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.
Ce sont des infos RMC. Plus de 300 000 personnes vont y assister. 326 000, ce sera le 26 juillet prochain sur les bords de Seine. Et alors, ce sera gratuit pour 222 000 personnes. Nicolas Pelletier, c'est vous qui révélez ce matin ce système de répartition des places.
Oui, et d'après nos informations, Paris 2024, l'État et la ville de Paris pourront inviter 139 000 personnes pour cette cérémonie d'ouverture. Le mouvement sportif français aura, lui, 9 000 places. Enfin, les collectivités locales et territoriales vont recevoir un accès pour 74 000 personnes. Par exemple, une ville comme Aulnay-sous-Bois, qui va accueillir un dépôt de bus pour les Jeux Olympiques, sera dans la liste des bénéficiaires. Libre ensuite aux partenaires de choisir leurs propres critères pour distribuer ces invitations. Mais avec ce système, l'État vise surtout un public spécifique. 45 000 personnes impactées par les Jeux seront invitées, riverains, commerçants et plus de 3 200 étudiants qui ont mis leur logement à la disposition de l'organisation. 3 heures de spectacle où Paris 2024 promet un rayonnement de la France sans précédent.
Il est 6h02 sur RMC. Les ministres Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti à Marseille aujourd'hui. Ils sont attendus au commissariat de la Division Nord pour dévoiler le bilan d'une grande opération Place Nette hier dans la cité de la Castellane. C'est ce genre d'opération, hein, Place Nette, qu'Emmanuel Macron veut multiplier pour tenter de débarrasser les quartiers des dealers. Bien que mal perçu par les habitants des quartiers nord de Marseille, nous dit Romain Poiseau pour RMC.
Des policiers, des CRS pour faire place nette dans des quartiers gangrénés par le trafic de drogue.
Ça ne change absolument rien, ça ne rassure aucun habitant.
Du déjà vu, qui ne perturbe en rien le trafic de drogue, selon Kaouter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère.
Les trafics sont tout simplement déplacés notamment dans le centre-ville de plus en plus. Arrêtons avec ces petites opérations coup de poing. Les habitants, de manière pérenne, ne voient rien évoluer et s'inscrire dans un schéma de perspective d'avenir positive pour eux et tous les habitants qui subissent.
Pour autant, même si les opérations PlaceNet peuvent être perçues comme des coups de communication, elles dérangent le trafic de drogue. Et c'est essentiel pour Bruno Bartocchetti, responsable du syndicat Unité SGP Police pour le sud de la France.
Pas mal de saisies en matière de coke, en matière d'armes à feu, d'interpellations. Vous avez des endroits où on revient, mais tous les mois, toutes les semaines par endroit. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on les gêne. Hein, je parle pas de résultats sur du long terme et sur un démantèlement de stupes. Là, c'est un autre sujet qui appartient aux enquêteurs.
Et pour régler en profondeur le trafic de stupéfiants, il attend de cette visite ministérielle plus de moyens pour les enquêteurs.
C'est une journée de grève qui commence pour les 5,7 millions de fonctionnaires partout en France à l'appel de l'ensemble des syndicats, 8 en tout, qui demandent une revalorisation du point d'indice dans le contexte de l'inflation. Tiens, cette bombe à retardement, c'est le mot qu'emploie la Fédération hospitalière qui met en garde contre le retard pris depuis le Covid avec des millions de soins repoussés ou annulés. Un retard conséquent a été pris en fait pour tout ce qui relève de la chirurgie lourde ou des greffes. Marion Gauthier, vous avez les derniers chiffres.
Moins 13% de cardiologie, moins 12% de rhumatologie, des dizaines d'opérations reportées. Car il a fallu d'abord rattraper les nombreuses déprogrammations du Covid. Embouteillage au bloc alors que l'hôpital se grippe, départ de professionnels et près de 80% des établissements publics de santé qui ont fermé temporairement des lits. Face à cette machine ralentie, la grande majorité des Français dit avoir renoncé à au moins un acte médical ces dernières années. Trop peu de rendez-vous disponibles, trop loin, mais ces retards se sont des risques de prise en charge encore plus lourdes. Un rendez-vous de dermatologie qui n'est pas pris, par exemple, c'est peut-être un cancer non détecté, souligne la Fédération hospitalière de France, qui dit son inquiétude et l'urgence de la situation.
Les agriculteurs à Matignon aujourd'hui, pas à l'Élysée comme prévu, vous savez que la réunion qui était annoncée aujourd'hui a finalement été repoussée. Ils sont donc à Matignon, reçus par le Premier ministre Gabriel Attal pour faire le point sur l'avancée des engagements pris face à la crise agricole et alors que le Sénat se penche aujourd'hui sur le CETA, l'accord de libre-échange controversé entre l'Union européenne et le Canada. Tiens, le Sénat qui, dans un rapport, veut interdire le changement de sexe des mineurs. Certains mineurs moins de 18 ans transgenres entament leur transition physique avant donc leur 18 ans avec des traitements hormonaux ou des actes de chirurgie que le Sénat, donc, dans ce rapport, veut interdire. Caroline Philippe.
Aucune donnée officielle sur le nombre de demandes de transition de genre chez les mineurs, seulement le ressenti des professionnels.
De très nombreux psychologues, psychanalystes, psychiatres, médecins ont vu une augmentation de la demande.
Mais ce qui alerte la psychanalyste Céline Masson, c'est surtout de voir ces jeunes regretter leur transition.
Nous souhaitons simplement que ces adolescents prennent le temps, par un travail sur eux-mêmes, de psychothérapie, de soutien divers, de médiation thérapeutique, etc., avant d'être médicalisé.
Dans la réalité, opérations chirurgicales, traitements hormonaux ou bloqueurs de puberté restent marginaux. Anaïs Perrin-Prével co-préside l'association Outrans.
Il y a un fantasme énorme sur la prise en charge des mineurs trans.
Et selon elle, cet accompagnement médical aide plus qu'il ne nuit aux jeunes concernés.
Le fait de ne pas accompagner les personnes trans et de leur dire « bah non, tu dois rester dans ton genre de naissance », c'est à ce moment-là qu'on augmente les risques importants de suicide, de scarification et d'incidence sur la santé mentale des personnes.
La Haute Autorité de santé doit publier justement dans le courant de l'année des recommandations sur le parcours de transition des personnes transgenres.
Un grand discours de victoire de Vladimir Poutine hier soir en Russie, réélu président en cinquième mandat, toujours donc président qui a salué le retour à la patrie. Ce sont ces mots à des territoires ukrainiens occupés. On a ce matin le palmarès du guide Michelin 2024 avec deux nouveaux restaurants triplement étoilés, le Gabriel à Paris et la table du Castellet dans le Var avec à sa tête Fabien Ferré, 35 ans, qui devient le plus jeune chef de l'histoire à obtenir 3 étoiles. Il y en a 35 ans, ils ont 3 étoiles.
Voilà. Wow.
D'autres sont contents quand ils cuisinent un cordon bleu. Bon, bah lui, 3 étoiles.
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai 3 ans de plus et je suis heureux quand je réussis une quiche. Voilà. Bon, il y en a à 35 ans qui ont 3 étoiles.
Ouais. Et puis le Royaume-Uni, en ébullition ce matin, puisqu'on a des nouvelles de la princesse Kate, qui a fait sa première apparition publique depuis son hospitalisation en janvier, depuis la polémique aussi, vous le savez, de la photo retouchée. C'était samedi aux côtés du prince William, Laura Kalmus, à Londres, du shopping. On la voit souriante sur les images que diffusent les médias TMZ et The Sun.
Ça fait plaisir de te voir, titre le Sun, qui s'est procuré la vidéo que le monde attendait. Kate Middleton, souriante et détendue. La vidéo a été prise samedi aux alentours de midi lors d'une virée shopping avec son mari, le prince William. Et sur cette vidéo, on peut voir la princesse de Galles, cheveux détachés, portant un sweat et un pantalon noir, marchant d'un pas assuré. Décidément, la communication de Kensington Palace est assez surprenante. Après des semaines d'absence et des spéculations et théories rocambolesques, eh bien, la princesse décide de réapparaître tout simplement un samedi matin comme si de rien n'était, en train de faire ses emplettes. Peut-être une façon d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce que la presse a déjà rebaptisé la Kate-spiracy.
Voilà, vous avez vu la photo de Kate, vous avez vu aussi la photo d'Antoine Griezmann qui a fait une arrivée remarquée à Clairefontaine hier pour le Rassemblement des Bleus avec sa nouvelle coupe de cheveux façon Johnny Hallyday. Bon, sitôt arrivé, sitôt reparti Grisou.
C'est vrai qu'on dirait Johnny.
Un petit côté Johnny ou Jeff Tuch au choix.
C'est vrai.
C'est vrai, mais j'adore les Tuch.
Bon.
Touché à une cheville, Griezmann qui est forfait pour les deux prochains matchs des Bleus, hein, contre l'Allemagne et le Chili. C'est la fin d'une incroyable série pour lui de 80 matchs consécutifs avec l'équipe de France.
C'était le journal de Quentin Vinet, un journal complet. Manu Le Chypre vient de nous rejoindre. Salut Manu.
Salut à tous.
Et je sais que Manu, l'info que tu as retenue de ce journal, c'est le palmarès du guide Michelin. C'est deux nouveaux restos triplement étoilés, hein, le Gabriel à Paris, la Table du Castellet dans le Var, et ce tout jeune chef Fabien Ferré, 35 ans seulement, 3 étoiles d'un coup dans le Var. Hein. Impressionnant.
Ouais. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a l'impression que les 3 étoiles, bon, c'est une gastronomie d'exception, mais que c'est inaccessible.
Bah, ça coûte cher.
Et c'est vrai que si vous regardez à Paris, c'est 300, 400 euros
Fait 3 étoiles.
Le dîner. Ah ouais. Et en province.
Merci de nous raconter.
Oui, dis-nous. Hein. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que le bon truc, c'est d'y aller le midi où vous avez des menus. Parfois à 50, 60 euros, 70 euros.
Dans un 3 étoiles.
Ouais, dans un 3 étoiles qui vous permet de. Alors évidemment, ce ne sera pas le menu dégustation à 12 plats, mais vous aurez quand même ce que c'est.
L'expérience.
Vous savez ce que c'est, l'expérience du 3 étoiles à un prix qui est quand même un peu plus raisonnable.
Et ben voilà, Manu Le Chypre, les bons conseils.
Tu nous invites.
Voilà. Ça fait très plaisir. Oui, un jour, tu nous invites pour qu'on vive l'expérience complètement.
Midi, et voilà. On la vivra.
Ce sera encore meilleur. Qu'il est sympa, ce Manu. Et puis tiens, justement, puisqu'on parle générosité, à 6h09, on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Tous les matins, des cadeaux à gagner sur RMC pour vous qui écoutez toute l'info avec une question d'actu.
Quelle star de l'équipe de France a déclaré forfait hier pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus ?
Ah bon, on vient de parler de sa coupe de cheveux façon Johnny Hallyday dans le journal de Quentin. Jeff Tuch. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16. Actu au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un radio-réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC.
Voilà, le radio-réveil, il est pour vous. Vous serez en direct avec nous dans quelques minutes si vous envoyez actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
À suivre cette proposition choc, il faudrait rationner Internet. C'est ce que propose l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Pas plus de 3 gigas par personne et par semaine pour nous libérer des écrans et de leurs conséquences. Est-ce que c'est une solution crédible ? Faut-il limiter, rationner Internet pour les jeunes, mais aussi pour les adultes ? On appelle tout de suite Annelise Ducanda, elle est médecin, spécialiste de la surexposition aux écrans. Elle est en direct tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 6h13, vous êtes bien sur RMC, alors faut-il rationner notre accès à Internet ?
L'invité de Charles Matin.
Rationner Internet pour nous libérer des écrans. Voilà ce que propose l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. Elle accuse Internet d'aggraver les maux de notre société, la surexposition aux écrans, la propagation de fake news, le harcèlement, les discriminations. Pour contrer notre dépendance aux applis et aux écrans, elle propose donc de limiter notre utilisation d'Internet, 3 gigas hebdomadaires par personne. Bonjour Annelise Ducanda.
Bonjour.
Vous êtes médecin, fondatrice du collectif Surexposition aux écrans. Alors Annelise Ducanda, bon, on a du mal à voir comment on pourrait imposer par la loi une telle mesure. On va pas parler de l'aspect technique, mais sur le fond, est-ce qu'à vos yeux, Najat Vallaud-Belkacem a raison ? Est-ce que c'est la solution ? On en parle beaucoup pour les enfants et pour les ados, mais est-ce qu'il faudrait même limiter le temps d'écran, le temps d'Internet des adultes ?
Alors, je ne sais pas si elle a raison de proposer cette proposition-là, mais elle a raison d'en parler, de mettre ce sujet en avant sur le tapis, car il faut vraiment agir vite. Alors, les adultes, évidemment, on est tous complètement accros, puisque ce sont des outils qui ont été fabriqués pour qu'on soit addict. Mais c'est surtout sur les enfants, hein, puisque nous, on alerte sur les enfants depuis 2017, qu'il y a des conséquences vraiment, vraiment parfois dramatiques.
Et alors forcément, on s'interroge sur le rôle des parents et des adultes autour de cette proposition de Najat Vallaud-Belkacem, parce qu'elle pointe le fait que les écrans sont toxiques, qu'on surconsomme Internet sans s'en rendre compte. Sur nos téléphones, on passe des heures par jour à scroller des vidéos. Alors, c'est mauvais pour la planète, ce sont des serveurs derrière, etc. Mais c'est même un enjeu de société, dit-elle. Des parents qui passent des journées sur les écrans, ce sont derrière des enfants qui passent à leur tour des heures avec des conséquences très concrètes pour les enfants.
Alors, tout à fait, hein, c'est vraiment, on découvre une forme d'addiction qu'on ne connaissait pas, avec des impacts, comme je vous l'ai dit, très puissants sur les enfants, puisque ça prive, je parle des tout-petits, hein, mais les grands, il y a d'autres problèmes, ça prive le tout-petit de ses besoins essentiels pour se développer. Interagir de façon fréquente et de qualité avec des parents, qui sont donc de moins en moins disponibles parce qu'ils sont sur leurs écrans, et explorer le monde avec tout son corps et tous ses sens. Donc on a des troubles du développement sur le langage, la motricité, le développement intellectuel, la gestion des émotions, la relation à l'autre, le sommeil, donc qui donnent des troubles du neurodéveloppement, des fois qu'on peut confondre même avec des troubles du neurodéveloppement qui sont pas liés aux écrans. Donc on a de plus en plus d'enfants qui rentrent dans le handicap, on demande des aides pour les écoles, on fait des dossiers de handicap. Et donc, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant ne suffit pas. Et donc, il faut effectivement taper fort par de la loi, par du politique. Il faut faire rentrer les pouvoirs publics dans des décisions fortes, soit avec la loi, avec des interdictions, ou des, comme elle demande, là, des grandes restrictions, soit avec des grandes campagnes de prévention, parce que celles qui sont faites jusqu'à maintenant sont vraiment trop faibles.
Ce qui surprend dans ce que propose Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'elle voudrait limiter également pour les adultes.
Alors, on a l'impression quand on l'écoute qu'elle a besoin d'aide, quoi. Moi aussi, je scrolle, on a besoin d'aide, on s'en rend compte, hein, qu'on est accro et que ça a des effets sur nous et sur nos enfants, puisque chaque adulte, bah, c'est un parent, un grand-parent, un tonton, un professionnel de l'enfance. Nous, on a énormément de parents qui nous disent, je mets mon enfant à la garderie le soir, je mets mon enfant au centre de loisirs et les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que les animateurs sont sur leurs écrans. C'est ça qu'on voit. Donc, elle a raison. C'est vraiment un enjeu de santé publique majeur pour les enfants. Et ça passe par les adultes. Un, qui montrent l'exemple. Deux, qui doivent être disponibles pour les enfants.
Mais pourtant, la ministre du Numérique, Marina Ferrari, a réagi hein, dès hier. Le gouvernement est complètement contre ce projet. Hein. La ministre parle d'un rationnement qui serait autoritaire. Selon elle, c'est la pire manière d'aborder le débat sur notre rapport aux écrans. Il n'y a pas besoin de passer par la loi et faire ça de manière manichéenne. C'est pas à l'État de restreindre les Français sur leur consommation d'Internet. Bon, en revanche, il y a la question des enfants. Et là-dessus, tout le monde semble d'accord sur le fait qu'il faut agir. Emmanuel Macron a lancé une commission écran, des experts chargés d'apporter des solutions pour limiter le temps d'exposition des plus jeunes. On attend les premières propositions là dès la fin du mois. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il y a une mesure concrète que vous attendez, en particulier pour les plus jeunes?
Alors, il faut que l'État soit courageux et ose justement interdire. On a bien interdit le tabac dans des lieux publics, on a obligé la ceinture de sécurité, on a interdit les smartphones dans les écoles, et ça marche. Quand il y a des grands enjeux de santé publique, les enfants ne peuvent pas boire d'alcool avant 18 ans, ne peuvent pas conduire de voiture avant 18 ans, et ne peuvent pas jouer aux jeux d'argent sur Internet avant 18 ans. Si on passe pas par la loi, par au minimum des grandes campagnes extrêmement fortes, ça bougera pas. Il va se passer la même chose que depuis 5-6 ans, où on donne des recommandations.
Interdire quoi? Interdire l'écran? Interdire la tablette, le téléphone jusqu'à, je sais pas, 15 ou 18 ans?
Alors, vraiment, interdire l'écran jusqu'à 3 ans, interdire qu'il soit vendu et commercialisé, et interdire le smartphone avant 15 ans, parce que des gamins ont aujourd'hui des smartphones à la main à 8 ans, et on découvre vraiment les dégâts des réseaux sociaux, de la pornographie, du harcèlement, la dysmorphie Snapchat, de tout ce qui se passe sur leur téléphone, loin du regard des adultes, qui n'est pas contrôlé, pas régulé sur les réseaux sociaux. Alors que ce qu'on voit à la télé est régulé, vous voyez des viols, des décapitations, et plus c'est gore et plus il se le passe, et avec les algorithmes, plus vous regardez des choses d'un certain contenu, plus la plateforme vous en envoie. On va être obligé de taper très fort.
Pour vous, docteur Ducanda.
Oui, justement, sur les réseaux sociaux, il y a déjà une limite d'âge, mais on voit dans les faits qu'elle n'est absolument pas respectée. Donc, comment faire respecter après cette limite d'âge?
Exactement. Alors, on fait respecter la limite d'âge pour les jeux d'argent. Je pense qu'il faut donner soit sa carte d'identité, soit sa carte bleue, soit les deux. Il faut faire exactement la même chose pour le porno et pour les réseaux sociaux. C'est faisable. Et c'est un manque pour l'instant de courage politique, parce qu'effectivement, on voit bien la réaction d'ailleurs de tous ceux qui ont lu la tribune de Madame Najat Belkacem. Donc il faut vraiment être courageux. On l'a fait pour plein de sujets de santé publique. Il faut le faire pour les écrans. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il ne faut peut-être pas limiter Internet pour tout le monde, mais je crois qu'il va falloir faire quelque chose, effectivement.
Mais pour vous, en tout cas, Najat Belkacem a le mérite de pointer un problème de société qui concerne les enfants, mais aussi mécaniquement leurs parents, et donc limiter, rationner l'usage d'Internet, pourquoi pas, dites-vous, mais surtout pour les enfants, là vous demandez, on l'entend à Adlis Ducanda, du courage aux politiques d'aller jusqu'à certaines interdictions, pas d'écran jusqu'à 3 ans, interdiction d'avoir un smartphone jusqu'à 15 ans. On verra, on attend hein, dans les prochaines semaines les premières propositions de cette commission écran mise en place par Emmanuel Macron pour répondre à cet enjeu de société. Je vous remercie encore Adlis Ducanda, médecin fondatrice du collectif Surexposition aux écrans, d'avoir réagi à cette tribune de Najat Vallaud-Belkacem qui propose de rationner notre accès hebdomadaire à Internet pour nous aider en fait à nous désintoxiquer, à nous libérer des écrans. Ça vous fait réagir ce matin, vous n'hésitez pas évidemment, le 32-16 est ouvert, il est 6h20.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso avec Manu Le Chypre. Bah tiens, on va continuer à parler des jeunes, mais alors cette fois avec toi Manu, on va leur apprendre à gérer leur budget.
Eh bien c'est ça, plutôt côté éducation et comment gérer votre argent.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 6h22 et gérer un budget, ça s'apprend dès le plus jeune âge.
RMC, Manu Conso.
N'est-ce pas Manu Le Chypre ? Dans Manu Conso, on apprend ce matin que les élèves de 4e sont en train de recevoir une mini-formation pour apprendre donc à gérer leur budget.
Oui, c'est un module de formation qui a été mis en place en partenariat entre la Banque de France et l'Éducation nationale dans le cadre de la Semaine de l'éducation financière, organisée notamment depuis 12 ans par l'OCDE. Ça concerne les 4e.
Ils vont appeler ça la Semaine Le Chypre, je pense. Hein, c'est votre Semaine Le Chypre, les enfants.
Bah, ouais, pourquoi pas. Mais si ça peut aider, effectivement. Alors, c'est les 750 000 élèves de 4e qui vont être concernés. Pourquoi les 4e ? Eh bien, parce que ils commencent à avoir de l'argent de poche, parce que c'est l'âge où vous commencez à avoir votre premier compte en banque, peut-être une première carte de paiement, que vous allez davantage sur Internet sans la surveillance des parents et que bah, vous êtes un peu vulnérable aussi au risque d'arnaque. C'est un module de formation qui dure 2 heures, où vous apprenez donc les notions de dépenses, d'épargne, de crédit, et qui est dispensé par un enseignement du collège volontaire.
Et apprendre tout ça dès le plus jeune âge, ce serait aussi une manière de corriger le fait qu'on nous dit en permanence que les Français seraient nuls en économie.
Oui, alors on n'arrête pas d'entendre ça, les Français sont nuls en économie, oui. Ce qui n'a pas de sens, puisqu'il faut savoir si, surtout, on est nul par rapport aux Anglais, aux Espagnols, aux Allemands.
Et alors, verdict,
or, nous dit l'OCDE, et ben on est dans la moyenne. Hein. La note des Français en culture économique, c'est 12,5 sur 20. Voilà, ça nous met 14e parmi la quarantaine de pays de l'OCDE, sachant que le trio de tête, c'est l'Allemagne, la Thaïlande et Hong Kong. Et j'en profite pour vous donner un petit conseil. Si vous allez à Paris, il y a Citeco, c'est la cité de l'économie créée par la Banque de France. Vous allez voir, il y a plein de trucs hyper ludiques pour découvrir ce que c'est que la finance, comment gérer son argent et tout. Emmenez-y vos enfants, voilà. Ils seront emballés.
C'est le Disneyland version Le Chypre.
C'est pas chiant du tout. C'est très intéressant.
Et puis c'est très intéressant aussi d'apprendre dès le plus jeune âge à gérer son budget. On verra si la note des Français grimpe en économie grâce à cette formation dès la 4e pour apprendre à gérer ses sous. C'était Manu Conso, à retrouver quand vous voulez aussi en podcast sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et c'est Sébastien qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce matin depuis la Gironde, c'est ça ? Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour, non, la Dordogne.
Ah la Dordogne, pardon, excusez-moi.
Le 24, Sébastien. Non, c'est un problème.
Bon, on est dans le sud-ouest, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous faites réveiller de si bonne heure, Sébastien ?
Je suis chauffeur-livreur.
Ok, ah, bah, qu'est-ce que vous livrez ?
Voilà, du fruit, de la volaille fermière.
Ah bah parfait, vous livrez, donc voilà. Vous êtes levé de bonne heure avec RMC, Sébastien, et vous avez tenté votre chance, vous avez été tiré au sort pour jouer avec nous, pour répondre à la question d'actu.
Quelle star de l'équipe de France a déclaré forfait hier pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus ?
Alors Sébastien.
Alors, c'est notre grisou, Antoine Griezmann.
Exactement, c'est Antoine Griezmann. Bravo. J'allais dire Seb. Oui, à 6h25, on est entre nous. Bravo, Seb.
C'est gentil. Comme
ça. Bravo, Seb. Vous avez reconnu Grisou. Vous avez la bonne réponse et donc vous avez gagné.
Votre radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC, tiens.
Ah, mais c'est super, vraiment. Merci beaucoup.
Et je vous prépare. On vous rajoute la coque de téléphone. Vous savez, la coque pour smartphone et RMC. On en a pour tous les modèles de téléphone. Donc, on va trouver le vôtre. C'est Sébastien, super. Vous aurez le plus beau smartphone de Dordogne. On va vous souhaiter bon courage.
Non,
pour les livraisons, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous roulez là ce matin.
Jusqu'à midi, 13h, ça dépend.
Eh ben, je peux vous donner la suite de votre programme dans le camion de livraison. Oui. Ça va être Apolline matin, puis les GG à 9h, Estelle midi, dès midi. Voilà, pour vous accompagner dans toute votre journée de boulot. Eh ben oui, vous connaissez
c'est
le programme,
gentil.
Sébastien.
Voilà.
Eh ben, la suite, c'est tout de suite avec Apolline. Salut Apolline.
Salut Sébastien, salut Charles, bonjour tout le monde. Eh bien oui, ça y est, il est 6h26, dans un instant, Apolline matin. Alors à la une ce matin, c'est notre santé, parce qu'évidemment, vous vous en souvenez, il y a eu cette chronique d'Amélie Rosic hier sur le manque de moyens à l'hôpital, et depuis, beaucoup de réactions. Vous nous avez envoyé de nombreux messages, alors ce matin, ben, on a tout simplement décidé de vous écouter, d'ouvrir le 32-16 à vos témoignages sur les manques à l'hôpital. D'autant qu'un rapport de la Fédération hospitalière de France nous le dit, depuis le Covid, on a pris du retard. Les délais pour obtenir un rendez-vous chez le médecin généraliste n'ont jamais été aussi longs. Vous avez une urgence, vous avez une angine, on vous dit ben, venez dans 10 jours. C'est vrai que c'est commode, comme vous l'imaginez. Quentin attend vos témoignages au 32-16. Et puis, nous serons également à Marseille. Vaste opération de police dans le quartier de la Castellane. Opération Place Nette contre le trafic de drogue. On verra si ça change quelque chose pour les habitants. Ou si ça revient à mettre la poussière sous le tapis. Nous sommes le mardi 19 mars. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire.
J-2.
Deux dodos. Apolline Matin, c'est parti jusqu'à 9h. On se retrouve dans un instant.
RMC, Apolline Matin.